Aujourd'hui, on est à la paracha Shemini, d'accord. J'ai pas les photocopies encore. Donc on va parler dans la paracha. Il y a une grande partie de la paracha qui est dédiée aux animaux cachers et aux animaux non cachers. Enfin, c'est pas que les animaux, d'accord. Ce qui est cachère, ce qui n'est pas cachère, les signes, pour savoir ce qui est cachère, ce qui n'est pas cachère. Et un des signes les plus répandus et les plus connus pour déterminer si un animal est cachère ou pas, c'est ma'alat gera ou mafreset parsa. C'est quoi ma'alat gera, mafreset parsa? Ça veut dire qu'un animal, il doit ma'alat gera, ça veut dire qu'il doit ruminer. Alors, ruminer, ça veut dire que donc, ça veut dire qu'il va manger, une grande quantité, et après il va digérer ça par la suite, enfin il va remâcher ça par la suite. Et ma'alat gera, ça veut dire que l'animal doit avoir également les sabots fendus. Il y a une question qui est posée par le Gaon de Rogatchov. Il a écrit un livre qui s'appelle Safnat Paneach. Et dans ce livre-là, il fait beaucoup ce qu'on appelle des chakirot. Chakirot, ça veut dire qu'il prend un sujet de la Torah comme ça et pose des questions dans lesquelles il y a toujours deux sens. C'est comme une pièce, il y a toujours deux côtés. Et la question qu'il pose, écoutez bien la question qu'il pose, il demande, il dit, comment ça se fait que lorsqu'un animal rumine et a les sabots fendus, il devient cachère. Alors, je vais vous dire dans ces mots, et après je vais expliquer. On va expliquer aussi spirituellement ce que ça veut dire. Il demande, il dit, est-ce que c'est un siman, c'est un signe qui est gorem, ou est-ce que c'est un signe qui est mevarer? Je vous explique ce que ça veut dire. Et deux manières de voir la chose. Une première manière de voir la chose qui dit que, en vérité, c'est pas le signe qui rend cachère. C'est-à-dire, c'est pas le fait que l'animal a les sabots fendus et le fait que l'animal rumine qui le rend cachère. Ça n'a rien à voir avec la kashrout. Mais, à Kadosh Baruch Hu, elle dit, il faut bien que je vous fasse un signe. Donc c'est quoi le signe qu'il va nous faire? Elle dit, bon, de la même manière qu'on aurait mis une marque ça, avec un feu sur le... D'accord? Pour dire, voilà, celui-là, il est cachère. À Kadosh Baruch Hu, il va dire, d'accord? Voilà, je vous ai mis le signe, cet animal, il est cachère. Mais on pourrait dire qu'en vérité, les sabots fendus et le fait qu'ils ruminent n'ont rien à voir avec la kashrout. Ça, c'est une première manière de voir les choses. Donc ça s'appelle un simen qui est mevarer. Mevarer en hébreu, ça veut dire que ça va nous permettre de déterminer que l'animal est cachère. Mais ça veut dire que Dieu aurait pu choisir un autre signe. C'est pas forcément, ça n'a rien à voir avec le fait qu'il rumine et qu'il a les sabots fendus. Ça, c'est une première manière de voir les choses. Deuxième manière de voir les choses, c'est de dire que non. De dire que un signe, donc les signes que la Torah a donnés, si la Torah a choisi ces signes, et la Torah n'a pas choisi un seul signe, elle a choisi deux signes, c'est que certainement, le signe n'est pas simplement mevarer, mais il est aussi gorem. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le signe rend l'animal cachère. Et qu'en d'autres termes, c'est ce que je veux dire, c'est qu'il y a un rapport entre le fait que l'animal est cachère et le fait qu'il a les sabots fendus et qu'il rumine. Ça veut dire que ruminer et avoir les sabots fendus, ça rend l'animal cachère, puisque apparemment il y a un concept de cacheroute dedans. C'est-à-dire que c'est pas simplement une marque que Dieu, qu'Akadosh Baruch Hu a mis sur l'animal pour dire, bon, vous saurez que celui-là est cachère. C'est beaucoup plus que ça. Et c'est la conclusion qu'il amène là-bas le Gaon de Rogatchov, qui dit que c'est pas que le signe nous permet de savoir si l'animal est cachère ou pas. C'est beaucoup plus que ça. C'est que le signe va rendre l'animal cachère. Il amène plusieurs preuves dans la halakha, d'accord? Avec des gemarot, bon, je vais pas vous compliquer. Si on avait fait sur texte, je vous aurais peut-être montré, mais sans texte, ça c'est un peu compliqué. Donc, il amène des preuves de plusieurs gemarot, de Tosfot, etc., que, a priori, le signe n'est pas là seulement pour déterminer si l'animal est cachère, mais le signe est là également pour rendre la chose cachère. Il est là, Léo Dayan, il nous aura donné une petite définition. Il n'est pas là, Léo? Léo? Bon. Ah. Julien va nous donner une définition. T'es avec nous, Julien? Tu n'as pas une petite définition d'avocat? C'est pour déterminer, est-ce que le signe, il rend cachère ou est-ce qu'il détermine si c'est cachère ou pas?
C'est déterminant. C'est le déterminant.
Ah, mais l'avocat il nous aura trouvé un mot.
Le mot qu'il faut.
C'est son boulot. D'ailleurs, signifiant.
Signifiant. Et l'insignifiant. Insignifiant.
Oui, c'est plus que ça en vérité. Parce que la question c'est, je donne un exemple. Voilà. Imaginez-vous que je viens et je vous dis, tu peux utiliser que le sidour qui est bleu. Donc on va dire le sidour bleu est cachère. Bleu. Très bien. Est-ce que maintenant, la couleur bleue a un rapport avec le fait qu'il est cachère ? Pas du tout. Donc ça veut dire que la couleur bleue, c'est seulement un déterminant. D'accord ? Signifiant, ça veut dire que le sidour est cachère parce qu'il est bleu. Parce qu'il est bleu.
Oui, c'est pour ça que c'est signifiant et insignifiant l'autre.
D'accord ? Donc ça, c'est la question qu'on pose, la question qui s'est posée. Et a priori, la conclusion du... La conclusion là-bas du Gaon de Rogatchov, c'est de dire que le siman, c'est-à-dire que les signes sont signifiants. Ça veut dire qu'il y a un lien entre le fait que l'animal est cachère, d'accord, et le fait qu'il a ces signes-là. Très bien, exactement. Donc on va essayer d'expliquer. On va essayer d'expliquer comment ça se fait. Oui, exactement. Donc on va essayer d'expliquer comment ça se fait. Comment ça se fait que la Torah a donné ce signe? Qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi la Torah a fait le signe que si l'animal il rumine et a les sabots fendus, il est cachère? Peut-être non, on peut dire le contraire. Celui qui ne rumine pas et qui n'a pas les sabots fendus, il est cachère. Je veux dire, quel rapport il y a entre la cacheroute et le fait de ruminer, d'accord, et d'avoir les sabots fendus?
On peut répondre à cette question.
Alors bien sûr qu'on peut répondre à cette question. On peut répondre à cette question spirituellement.
Spirituellement.
Bien sûr. Alors on va répondre, pour répondre à cette question, on va se baser sur le Ramban. Ramban Nachmanide. D'accord ? Ils ont mis un PV ?
Non.
Ah, d'accord. Donc pour répondre à cette question, on va amener ce qu'il dit le Ramban Nachmanide. D'accord ? Nachmanide dit la chose suivante, il dit qu'une des raisons pour lesquelles on n'a pas le droit de manger des aliments interdits, je vous lis dans les mots, il dit « Kevan shekol davar ma'achal shadam ochel na'ase damu vasar kifsaro » puisque toute chose qu'une personne mange va devenir son sang et va devenir sa chair. C'est-à-dire que tout ce que je vais manger, même si je l'ai mangé comme ça rapidement et que bon, j'ai pas accordé d'importance, d'accord, je l'ai mangé en 2 secondes, comme ils disent, j'ai mangé 2 minutes dans un McDo. Et on mange pas 2 minutes dans un McDo, parce que ce que tu as mangé, ça fait partie de ton corps, c'est fini. Et même s'il croit qu'il va aller aux toilettes après, il y a toujours une partie qui est retenue par le corps. Donc explique Nachmanide, il dit c'est pour ça que Asra Torah et Amachalim Asurim, Kedeshelo Yudbeu Beadam Techunat Adavar Asur. Pourquoi la Torah interdit les aliments, donc tous les aliments interdits, pourquoi la Torah les interdit? La Torah les interdit puisque la Torah ne veut pas qu'on prenne certaines caractéristiques de l'animal. Donc le premier qui a dit ça, c'est le Ramban, Nachmanide. Après, ça a été élaboré par la suite par Rabbeinu Bechaye et par beaucoup d'autres commentaires, mais le premier qui a donné, c'est ce concept-là, qui a expliqué que pourquoi la Torah nous interdit de prendre certains aliments. D'accord ? C'est Nachmanide, il a expliqué, il a dit que la raison, c'est parce que quand on prend ces aliments, ça influe sur notre personnalité, ça nous amène un comportement négatif. Voilà, tout à l'heure, on a dit que la sphira à Omer d'aujourd'hui, d'accord, c'est Gvoura chez Bigvoura. La sphère qu'on travaille aujourd'hui, c'est Gvoura chez Bigvoura, c'est-à-dire de se travailler sur la rigueur. Ça veut dire que des fois, on peut avoir des comportements négatifs. D'où il vient ce comportement négatif ?
Le 9e jour, c'est Gvoura.
Toujours. Gvoura chez Bigvoura, toujours. Et quel rapport, donc ce qu'explique Nachmanide, il dit que pourquoi la Torah nous interdit ces aliments ? Puisque ces aliments nous amènent, donc on a dit, des mauvais comportements. Alors la question qu'on se pose, c'est quel rapport avec les sabots fendus et le fait de ruminer ? En quoi le fait qu'un animal ait les sabots fendus, ça le rend cachère ? Et le fait que l'animal rumine, ça le rend cachère ? Pourquoi c'est pas le contraire ? Je veux dire, en quoi ça aurait amené ? Qu'est-ce qu'a dit Nachmanide ? Nachmanide a dit que quand l'animal n'est pas cachère, ça veut dire que l'animal va m'amener à un mauvais comportement. Très bien. Donc ça veut dire que si on veut trouver la réponse à notre question, on doit essayer d'analyser comment le fait de ruminer et le fait d'avoir les sabots fendus, ça amène un bon comportement.
Tout à fait.
D'accord ? Alors, on va voir. Vous voyez comment il faut... c'est un peu style Gemara aujourd'hui. D'accord ? Puisque Nachmanide nous a dit que si c'est interdit, c'est-à-dire que ça m'amène à un mauvais comportement, donc ça veut dire que la clé de la réponse pour savoir pourquoi ruminer rend cachère et pourquoi les sabots fendus rendent cachère, c'est dans le comportement. Donc on va essayer d'analyser comment ça pourrait amener un mauvais comportement. D'accord ? Donc, on va amener encore une fois une autre chose qui dit Nachmanide. D'accord ? Nachmanide dit la chose suivante. Ça c'est quelque chose qui est très célèbre aussi. Mais aujourd'hui tout le monde le dit, mais c'est le premier qui l'a dit, c'est Nachmanide. Extraordinaire. Il a dit que dans la parasha Kadoshim, il dit une chose extraordinaire. Il dit qu'un juif, il peut être ce qu'on appelle Naval Birshut HaTorah. Naval Birshut HaTorah, Naval, c'est un terme qui est encore plus grave que Racha. Et il dit qu'on peut être Racha dans le cadre de la Torah. Comme ça, il dit. Et il développe. Qu'est-ce qu'il dit ? On peut avoir un juif qui est Shomer Torah et Mitzvot, qui fait Shabbat, qui fait tout ce que vous voulez. Et pourtant, quelque part, c'est un rachat. Et là-bas, Nachmané dit, c'est pour ça que la Torah nous dit dans la paracha, qu'on va lire bientôt, Kedoshim. D'accord ? Dans la paracha, là-bas, c'est écrit Vit Kadishtem, Vitem Kedoshim. La Torah nous dit, vous vous sanctifierez, vous deviendrez Kadosh. Alors Ramban dit, ça veut dire quoi, vous deviendrez Kadosh ? Et là, Ramban, il explique longuement, Bezrat Hashem, ça me fait penser, peut-être quand on arrivera à la paracha Kedoshim, on fera un cours sur ça. Le Ramban, il explique là-bas, il dit que ça veut dire qu'on peut être un juif kasher à 100%, venir à des cours de Torah, étudier, etc. Et pourtant, à l'intérieur, c'est pourri. Il appelle ça Naval Birshut HaTorah.
C'est quoi Naval ?
Naval, c'est encore, bon, c'est encore plus grave que Racha.
À quoi on voit ça ?
Comment on voit ça ? C'est à l'intérieur.
Lui-même le sait.
Et c'est pour ça qu'on va développer les deux signes, ruminer, avoir les sabots fendus. On va parler de juifs kasher, Shomer Torah et Mitzvot. Et on va parler d'un comportement négatif qu'ils peuvent avoir.
Est-ce que la personne elle est consciente de son...
Elle va être consciente. Elle va être consciente. C'est pour ça que Dieu a donné ce simanim. Pourquoi est-ce que celui qui mange un morceau de viande de McDonald's, il est conscient que ça l'abîme ? Pas forcément conscient, mais c'est à long terme qu'on le voit. Donc encore une fois, on va tourner autour de Nachmanide pour expliquer comment ces deux signes-là, ruminés à avoir les sabots fendus, pourquoi ils ont été interdits, on a dit ? Parce qu'ils vont influer un mauvais comportement. Un mauvais comportement de quel style ? Pas forcément, d'accord ? Pas forcément un mauvais comportement comme on s'imagine, ça veut dire quelqu'un qui va être là en train de voler et casser. Ça peut être un mauvais comportement dans le cadre de la Torah. Comment ? C'est quoi un mauvais comportement dans le cadre de la Torah ? Alors, de manière générale, on va commencer par les sabots fendus. D'accord ? Les sabots fendus, donc les sabots, c'est dans les pieds. D'accord ? La Torah n'a pas donné un signe dans la tête, elle a donné un signe dans les pieds. Le signe de ruminer, on va dire, c'est un signe qui est lié aux intestins, peut-être à la bouche, si on veut. Bon. En tout cas, c'est un signe qui est lié au haut du corps. Mais le signe des sabots fendus est lié au bas du corps. Ça veut dire que la Torah a mis un signe même dans les pieds. Normalement, chez l'homme, on est toujours tenté, d'accord, à accorder de l'importance à nos sens les plus importants. Je vais expliquer ce que je veux dire. D'accord ? Ça veut dire qu'il y a des gens qui vont vous dire, moi ce qu'il faut, c'est qu'il faut que je pense kasher, il faut que je réfléchisse kasher. Dans ma tête, tout doit être OK. Mais après, tu lui dis, tu sais que quand tu dois agir, l'action doit être elle aussi cachère, ta parole doit être cachère, la manière comment tu t'exprimes doit être cachère, la manière comment même tu marches, ça veut dire ta manière de réagir,
d'être.
D'accord, ta manière d'être. Tu vas dire, non, ça c'est pas important. Et c'est vrai que ça nous a l'air moins important. Tu vas dire, bon, moi dans ma tête, t'inquiète pas, je suis cachère, t'inquiète pas, je fais Shabbat, je fais tout ce qu'il faut. Mais tu lui demandes d'accorder de l'importance au petit détail. Ça veut dire à la manière comment il va parler, la manière comment il va marcher, la manière comment il va s'énerver. Tout ce qui nous a l'air extérieur, tout ce qui nous a l'air insignifiant. Une personne s'est énervée un jour, ça a duré 2 minutes, il s'est calmé, après c'est fini. Il dit bon, ça va, je me suis énervé, c'est calmé, ça va, c'est pas le bout du monde. Qu'est-ce qu'on te dit ? Il nous dit, Nachmanide, il nous dit que ce qu'il faut savoir, c'est qu'il faut... Pourquoi la Torah nous a dit qu'il faut avoir les sabots fendus ? Ça veut dire quoi, le sabot fendu ? Le sabot, c'est le pied. Le pied, ça représente tout ce qui est insignifiant pour nous, tout ce qu'on n'accorde pas d'importance. Et qu'est-ce que te dit la Torah ? La Torah, elle te dit, il faut fendre ton sabot. Le sabot, ça représente ce qu'il y a de plus matériel possible. Et fendre le sabot, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que même dans ce qu'on a le plus matériel possible, il faut le fendre, ça veut dire qu'il faut le creuser pour infiltrer la Torah dedans. C'est ce qu'il dit Nachmanide. Nachmanide dit, on peut être un rachat dans le cadre de la Torah. Tu peux avoir une personne qui fait Torah et Mitzvot, tout ce qu'il veut, par exemple la colère. La colère, c'est une des choses qui est la plus fréquente. Qui accorde de l'importance à ça ? Personne n'accorde l'importance. Bon, il s'est énervé une fois, ça y est, c'est passé, c'est fini. Qu'est-ce qu'on te dit ? C'est quoi les sabots fendus ? Les sabots, le pied, les sabots, c'est ce qu'il y a de plus bas dans le corps. Mais d'accord ? Les sabots, c'est ce qu'il y a de plus bas. On a pris ce qu'il y a le plus bas possible. Qu'est-ce que te dit la Torah ? Tu prends le sabot, ce qui est le plus insignifiant possible. Le plus insignifiant, celui qui est le sabot, on l'écrase et on n'en a rien à faire. C'est-à-dire, à la limite, même on va le... C'est lui qui va s'abîmer, enfin, ça ne nous dérange pas. D'accord ? Tu vas prendre ton sabot et tu vas le fendre. Tu vas mettre la Torah dedans. On raconte qu'une fois, le Rabbi Rachab a envoyé... Donc, le Rabbi Rachab, c'est deux rabbis de Lubavitch en arrière. Il y a un de ces chassidim qui est venu le voir, qui était à la yeshiva, qui était donc au Kollel, qui est venu le voir et qui lui a expliqué que bon, que ça ne pouvait plus continuer comme ça, qu'il avait besoin de travailler. Parce que jusqu'à présent, il travaillait par-ci, par-là, mais il dit, bon, Ravi, je ne peux plus continuer comme ça, il faut que j'arrête la yeshiva. Et donc, il faut que j'aille travailler. Donc, il a demandé une bracha au Rabbi. Alors, Rabbi Rachab lui a posé la question, il lui a dit, dans quoi tu vas travailler ? Il lui a dit, ouais, j'ai pensé que dans la ville, Ici, il manque une usine de bottes. On est en Russie, d'accord. Donc elle a dit, je pense qu'ici, il manque une usine de bottes. Bon, elle a dit, bracha vatzlacha, tu vas aller, bazar ta chaîne, tu vas réussir. Bon, il a dit, vous inquiétez pas, Rabbi, je continue à venir mi-temps. D'accord, mi-temps.
On sait ce que ça d'accord va devenir.
Avec le temps, d'accord, imaginez. D'accord.
L'entreprise a pris de la...
L'entreprise, Baruch HaShem, a commencé à marcher. Baruch HaShem, pour lui. D'accord. Certainement qu'il donnait des zaka aussi, mais il venait de moins en moins à la yeshiva. D'accord. Et petit à petit, il a commencé à arrêter, minyan, etc. Bon, il faisait toujours Shabbat, mais c'était très très loin de ce qui s'était promis au début. Alors le Rabbi Rachav l'a appelé une fois, l'a convoqué et lui a dit, j'ai déjà vu qu'on met les pieds dans les chaussures, donc dans les bottes, mais j'ai jamais vu qu'on met la tête dans les bottes. Comme ça, il lui a dit. Bon, le chassid a compris, il était pas bête. Ça veut dire quoi, hein? Ça veut dire qu'il faut savoir, hein, il faut savoir dans la Torah, ça veut dire quoi les sabots fendus. C'est-à-dire que même si, dans le cadre de notre vie de tous les jours, on doit accorder de l'importance à des choses qui sont normalement insignifiantes, on doit travailler, on doit accorder de l'importance à chaque chose. D'accord ? Il faut faire tout ce qu'il faut, il faut aller voir le client, il faut aller faire enfin tout ce qu'il faut pour faire un travail, même des choses qu'à la limite on aurait voulu ne pas les faire et qu'on n'a pas envie d'accorder d'importance. Qu'est-ce qu'elle t'apprend la Torah ? La Torah te dit qu'il faut avoir le sabot fendu. Le sabot fendu, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il faut, il faut accorder de l'importance à tout. Pas seulement ça. Il continue le rabbi, il explique, il dit c'est quoi le sabot fendu ? Quand, si on va fendre le sabot, ça veut dire qu'il y aura une partie qui va aller à droite, une partie qui va aller à gauche. Ça nous rappelle quoi ? Ça nous rappelle ce que la Gemara a dit dans le traité Sota. La Gemara a dit qu'il faut toujours s'habituer à être en même temps Yamin Mekarevet ou Smol Docha. Il faut toujours s'habituer à avoir la droite qui rapproche et la gauche qui éloigne. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que, de manière générale, dans notre vie, dans la vie de tous les jours, on peut être soit tenté d'être plutôt bon, ou soit tenté d'être plutôt rigoureux. Soit l'un, soit l'autre. Et c'est des natures, ça. D'accord ? Soit une personne est plutôt bon, soit il est plutôt rigoureux. Vous allez prendre par exemple une personne qui est bon. Quelqu'un qui est bon de nature. Donc il va essayer de se convaincre à accomplir la Torah. Il va essayer même de convaincre d'autres personnes à accomplir la Torah. Ce qui va se passer, c'est que des fois il va assister à des comportements négatifs d'autres personnes. Et lui, comme il est tellement bon, d'accord, c'est pas seulement qu'il va pas oser, il va même pas le voir. Il va dire, bon, c'est pas grave, faites comme vous faites, c'est pas grave, c'est pas la fin du monde. À cette personne-là, on lui dit, non, monsieur, ça marche pas comme ça. Le sabot était fendu, il y avait une partie à droite, une partie à gauche. Ça veut dire qu'en même temps qu'il faut rapprocher, il ne faut pas perdre de vue que la gauche doit repousser les mauvais comportements. C'est-à-dire, dans ta tête, tu ne dois pas perdre de vue qu'il faut qu'il arrête son mauvais comportement. Vous savez, des fois, avec le temps, tellement en Baruch HaShem, on est toujours souriant, etc. Des fois, quand par exemple, vous avez quelqu'un qui travaille le Shabbat, bien sûr, vous allez être souriant avec lui, mais il faut que dans votre tête, vous vous rappelez que son comportement n'est pas normal. Et dans votre tête, ça doit vous déranger. Il faut quelque part repousser ça, il faut comprendre que c'est pas normal. D'un autre côté, vous avez des gens qui sont rigoureux. C'est-à-dire, dès qu'il voit quelqu'un qui ne fait pas les choses comme il faut, qui ne fait pas Shabbat par exemple, tout de suite il ne lui parle pas, il écrase, etc. Et c'est ça ce que la Torah te dit. Et la Torah te dit que même dans les choses les plus insignifiantes, il faut avoir le sabot fendu en deux, une partie qui va à droite, d'accord ? Une partie qui va à gauche. Et ça c'est quelque chose que le rabbi répétait très souvent. Il dit que même si on doit s'efforcer de faire du kirouv et de rapprocher d'autres personnes à la Torah, et de se rapprocher soi-même à la Torah, mais il ne faut jamais... Ah, Razak. Monsieur Cohen, toujours... Monsieur Cohen, toujours la roue de secours dans le bon sens du terme.
Tout a de l'importance.
Quelle heure il est ? On a encore un peu de temps. On n'a pas fini. Razak. Ah oui, le sucre, c'est pas insignifiant, le sucre. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que, encore une fois, il faut s'habituer. Il est où, monsieur Guéniche, qui a parlé d'équilibre ?
Oui. Il est parti ?
Monsieur Guéniche ! Ah, d'accord. Justement, c'est très compliqué ce que la Gemara a dit. Comment d'un côté, il faut avoir la main droite qui rapproche et la main gauche qui repousse. Et c'est très difficile. Même en soi, c'est très difficile. D'accord ? Je donne un exemple. Prenez par exemple l'exemple de l'éducation des enfants. Là-bas, la Gemara a dit, là-bas, la Gemara Sota, hein, elle parle des enfants. Elle parle de l'éducation des enfants. Elle parle de l'éducation de soi, mais elle parle aussi de l'éducation des enfants. Elle parle d'un synope. Tinoc en hébreu, c'est quoi hein?
Un bébé.
C'est un bébé, d'accord. Très bien. Donc un bébé, d'accord, vraiment, je vous prends un exemple qui me concerne. Vous prenez un bébé. Vous avez envie de le prendre et de lui pardonner tout. C'est naturel. D'accord ? Ouais. Il y a deux catégories de parents. Il y a des parents qui sont extrêmement rigoureux et qui ne tolèrent rien du tout à leurs enfants. Même des nourrissons, ça veut dire qu'il faut l'éduquer depuis le début. Et ils ont raison. D'un autre côté, vous avez des parents qui vont vous dire, bon, il faut tolérer, il est enfant. Si on va le traumatiser, il va savoir ce qui va arriver. Aujourd'hui, c'est un peu la tendance.
Il ne faut pas traumatiser.
SOS, enfant traumatisé. D'accord ? Faut pas traumatiser les enfants, chasse shalom, si on prend un petit coup, Dieu préserve, ils peuvent être déréglés. D'accord ?
Aujourd'hui, c'est plus les enfants qui
c'est les enfants qui trouvent le parent aujourd'hui. Et qu'est-ce qu'elle dit la Gemara là-bas hein ? La Gemara là-bas, elle dit qu'il faut apprendre à être Yamin Mekarevet Usmol Dora. Ça veut dire en même temps la main droite, qui approche, et en même temps la main gauche qui repousse. Et les deux en même temps. C'est ça les sabots fendus. C'est très dur. C'est-à-dire que la Torah a choisi le sabot, qui est la partie la plus insignifiante du corps, qui est la partie la plus basse du corps. Et qu'est-ce que te dit la Torah ? La Torah te dit, même dans les parties, donc on a dit deux points, même dans les parties les plus insignifiantes de ta vie, tu dois infiltrer Akadosh Baruch Hu, premièrement. Et on a dit, fendre le sabot qui va être donc fendu avec une partie qui va à droite, une partie qui va à gauche, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il faut toujours avoir la droite qui rapproche et la gauche qui repousse en même temps. Vous tenez ?
C'est Rachamim et
difficile.
Et Din, ou c'est
très difficile. D'accord. Mais là, on commence à comprendre ce que l'Armamid veut dire. Comment on peut être dans le cadre de la Torah, et avec ça, on a encore des choses à nous reprocher. Est-ce que
beaucoup de
personnes. D'accord.
Ah, c'est ça. C'est-à-dire que
oui. L'Armamid dit qu'on peut être dans le cadre de la Torah, et pourtant être pire qu'un rachat.
Pourquoi pire qu'un rachat ? Parce que le rachat, il peut être non seulement être pas dans la Torah, et faire ça aussi.
Très bien.
Pourquoi celui qui est au moins dans la Torah...
Celui qui est dans la Torah, il a les outils pour se battre.
Avec les enfants pour les parents, le père et la mère.
Ouais.
Le père, quelquefois, il est un peu plus...
C'est difficile de comprendre. C'est
trop facile de dire ça.
Non, mais souvent,
c'est très facile de dire ça. Mais il faut savoir que le père doit être les deux en même temps.
C'est plus difficile.
C'est très dur.
Le père et la mère,
c'est très dur, et même des fois, je vais vous dire plus que des fois, ça peut même déstabiliser les enfants.
Parce que,
bah oui, d'un côté, des fois, il est un peu gentil. C'est déstabilisant. D'accord ? Qu'est-ce que dit la Gemara ? La Gemara dit que c'est très important de faire les deux en même temps. C'est ça le sabot fendu.
On prend une étude de rigueur, l'enfant n'est pas obligé de couper.
C'est ça ce que la Torah nous dit. La Torah nous dit, d'accord, on aura ça beaucoup de temps, qu'il faut. C'est quoi le sabot fendu ? Ça veut dire premièrement qu'il faut infiltrer la Torah même dans les parties les plus insignifiantes de notre vie. Ça veut dire qu'il faut savoir que la Torah se trouve partout, même dans les choses auxquelles on n'accorde pas de l'importance, comme de quoi je parle avec quelqu'un, si un jour je m'énerve, et si un jour ce que je vais manger, les choses qu'on pense les plus insignifiantes. Oui.
Moi, j'ai pensé, comme c'est effectivement le pied, c'est la démarche,
oui.
Et je pensais que c'était plus de dire que dans la démarche d'un homme, c'est important d'être comporté sur la Torah.
Bien
pas
sûr.
Seulement dans les attitudes, mais également dans le behavior en anglais.
Dans le
comportement.
Dans le quoi vous avez dit
behavior.
Ah, behavior, oui, comportement, oui.
Voilà, comportemental, démarche, une attitude.
Maintenant, aujourd'hui, j'ai lu il n'y a pas longtemps, il disait que les psychologues, ils sont capables de voir dans la manière comment une personne marche.
Oui.
D'accord. Ils sont capables de voir beaucoup de choses. Dans la manière comment une personne marche. Bon, en tout cas, quoi qu'il en soit. C'est quoi les sabots fendus ? Comme ça, on finit avec le ruminer. C'est quoi les sabots fendus ? N'oubliez pas. Sabots fendus, ça veut dire, si on expliquait, sabots fendus, ça veut dire deux choses. Premièrement, ça veut dire qu'on va prendre le sabot qui est le plus bas du corps. Et on va le fendre, ça veut dire qu'on même dedans, on va infiltrer la Torah. Et même dedans, on va se poser des questions constamment.
Dans le matériel.
D'accord ? Dans le matériel. Dans notre vie de tous les jours. Chaque chose qu'on va faire, chaque chose qu'on va parler, chaque chose qu'on va penser, chaque chose qu'on va faire, on va se poser la question, on va se dire, est-ce que Dieu est content de ce que je suis en train de faire ? Même si c'est une chose qui est insignifiante, je suis en train de manger chez moi à la maison, et quel rapport avec Dieu maintenant ? Il me dit, non. C'est quoi fendre ? C'est quoi le sabot fendu ? On a expliqué aussi, ça veut dire une partie qui va à droite, une partie qui va à gauche. Ça veut dire qu'il faut se fendre, et même si en soi, on est tenté d'être plutôt soit rigoureux ou soit bon, il faut se fendre et s'efforcer d'être le dos en même temps. C'est très dur, c'est très très dur. Très bien. Ensuite, on a le deuxième signe que la Torah nous donne. C'est quoi le deuxième signe que la Torah nous donne ? Et je finis avec ça. Le deuxième signe que la Torah nous donne, c'est ruminer. C'est quoi le concept de ruminer ? Ça veut dire quoi ruminer ? Qu'est-ce qui fait l'animal ? L'animal, il va manger, il va ingurgiter donc une grosse quantité de nourriture. D'accord ? Et après, ce qui va se passer, c'est qu'il va, en vérité, il va manger pendant plusieurs heures. C'est-à-dire qu'après, la nourriture, il va faire remonter petit à petit la nourriture. D'accord ? Il va la mâcher. Eh bien, la mâcher. On le voit dans les animaux. Quand on va au zoo, on voit des fois l'animal, on a l'impression qu'il y a quelque chose qui remonte, il va mâcher. Une fois qu'elle est bien mâchée, il va la ravaler.
Tu vas au zoo, toi ?
Bien sûr. Avec les enfants ? Même sans les enfants.
Surtout qu'il faut y aller entre le mois de Pessah. Je crois que
c'est très bien d'aller au zoo pour que les enfants voient les. Qu'est-ce que tu préfères ? Qu'ils voient les PSP et les.
Ah, le zoo, c'est mieux. On allait même à la télé.
Maintenant, ils voient le zoo dans la PSP.
La PSP.
Pour les créatures de HM, c'est bien.
C'est bien. C'est important. C'est important que les enfants voient la nature. Dès que la nature, ça purifie l'esprit des enfants. Même s'ils vont voir un animal comme un lion, etc., c'est très important. La nature, ça purifie le cerveau des enfants. Alors, ça veut dire quoi, ruminer ? C'est quoi le concept de ruminer ? On aurait pu penser que ruminer, c'est un défaut. Là, Torah, tu m'as dit que c'est un signe qui rend cachère. Normalement, ruminer, c'est un défaut. Pourquoi ?
C'est un peu rabâché.
Ben oui, c'est rabâché. Normalement, on te dit, attends, ça y est, t'as mangé, c'est fini. Qu'est-ce qu'elle est en train de ruminer ? Bon, alors, si on dit que c'est un signe déterminant, bon, c'est encore, ça va. Mais tout à l'heure, on a dit que les signes, c'est des signes qui sont signifiants. C'est-à-dire que c'est le signe qui rend cachère. Ça veut dire quoi ? Explique le rabbi, il dit ruminer. Ça veut dire que surtout dans l'éducation, et surtout dans l'éducation de ses enfants et dans l'éducation personnelle, il faut apprendre à ruminer constamment. C'est-à-dire quoi, ruminer ? Ça veut dire réfléchir. Je ne dis pas qu'il ne faut pas agir, il faut agir. Mais il faut à chaque fois réfléchir, se poser des questions. Est-ce que j'ai quelque chose à me reprocher ? Et on mâche. Ça veut dire que même un comportement qu'on a déjà, que j'ai déjà mangé, qui fait déjà partie de moi, même ça, il faut mâcher constamment et se poser la question. C'est vraiment, Ashgara pratique, c'est un rapport avec le Ayom Yom qu'on a dit ce matin. Le Ayom Yom qu'on a dit ce matin, qui a dit qu'aujourd'hui on doit se travailler sur Gvoura chez Bigvoura, ça veut dire qu'il faut constamment se poser des questions. Et se poser des questions, pas seulement sur ce qu'on doit faire, mais sur ce qu'on fait déjà. On doit se poser des questions. Il faut ruminer constamment. Est-ce que je fais les choses comme il faut ? Est-ce que je ne dois pas améliorer ? Et même dans des choses insignifiantes, comme ce qu'on a expliqué. C'est plus qu'une introspection, c'est une analyse de la vie de tous les jours. Mais encore une fois, ça prend du temps. Ça veut dire que d'abord on mange. Comment il fait l'animal ? D'abord il mange. C'est pas qu'il attend pour manger, attention.
Ouais.
Tu fais bien comprendre ce qu'il fait l'animal.
Il agit.
Ouais. D'accord ? Il mange. Et après il réfléchit. Ça veut dire qu'il faut foncer, il faut avancer. D'accord ? Mais après, il faut ruminer de temps en temps. Comme ce qu'il fait l'animal, il faut ruminer. Et ressortir, et réfléchir. Est-ce que ce que je fais c'est ok ou pas ? Est-ce que c'est cachère ? Est-ce que c'est pas cachère ? Est-ce que c'est bon ? Est-ce que c'est pas bon ? Est-ce que je suis pas trop nerveux ? Est-ce que je parle bien ? Est-ce que je me comporte bien ? Est-ce que je dis bien mes enfants ? Est-ce que ce que je fais c'est bien ? Se poser des questions constamment. Ça veut pas dire qu'on arrête de travailler. Ça veut dire qu'on rumine. Vous avez vu comment on a expliqué que les deux signes, ruminer et avoir les sabots fendus, c'est des signes qu'on peut retrouver dans la vie de tous les jours. Et même si on est chômer, Torah et Mitzvot à 100%, Shabbat, Kashrout, etc., on peut toujours retrouver quelque chose à arranger. On peut toujours retrouver. Comment Akadosh Baruch Hu nous demande, premièrement, d'infiltrer la Torah, même dans le matériel. Ça, c'est premièrement. Dans ça, on a rajouté aussi le fait qu'il faut toujours à droite et à gauche. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il faut toujours être en même temps bon et rigoureux. Mais surtout, le deuxième point qu'on a expliqué, c'est quoi ? C'est que pour arriver à ça, il faut constamment ruminer, constamment se poser des questions, constamment réfléchir. Non seulement sur ce qu'on va faire, mais sur ce qu'on fait déjà. Et ça, c'est un principe de base.
Il n'y a pas des signes importants qu'on peut trouver dans des animaux non cachères.
Bon entendeur.
Oui.
Par exemple, le hari, on l'appelle le hari, pourquoi ? Parce que c'est les signes du hari, du lion, le harizal.
Oui.
Les signes du lion qu'on a trouvés, la force, les différents cris et différentes choses qui font...
Mais là, on parle de ce que la personne va manger.
D'accord, qui ferme ensuite partie, qui sont les caractéristiques de ce qu'on devient.
Tu vois, regardez comment la Torah a pris deux choses d'analyse. La Torah a pris deux signes qui sont un défaut, a priori. Les sabots fendus, c'est un défaut. C'est beaucoup mieux s'ils sont plats. D'accord ? Ruminer, c'est un défaut a priori. C'est beaucoup mieux s'ils avalent directement comme nous, comme les hommes. Et la Torah a pris ces deux signes-là, elle dit que non seulement c'est pas un défaut, mais c'est une qualité. Et qu'on doit s'efforcer d'avoir ces qualités-là. Ah non, c'est pas une qualité. Enfin, ça n'a pas l'air d'être une qualité. Maintenant on comprend qu'une qualité.
On voit que ces deux signes.
Il faut avoir les deux qualités pour
pour être cachère, exactement.
Pour être cachère.
On voit que ces deux signes ils sont liés à la perfection. On y met. Parce que c'est quelqu'un qui se remet toujours en question et qui cherche toujours le juste milieu, l'équilibre.
Mais c'est quoi c'est très fort. C'est-à-dire qu'il faut infiltrer la Torah, même dans le plus matériel, même dans les choses les plus matérielles possibles. C'est notre manière de réfléchir, notre manière de voir les choses, notre manière de parler, tout ce qu'on fait.
Malgré tout, c'est Nassé Vénishma. C'est-à-dire que, comme il a dit, il faut d'abord faire.
Oui, bien sûr.
Il faut d'abord faire, et après
on rumine.
On réfléchit.
On ressasse.
Le fait de ruminer nous permet de ne pas avancer.
Bien sûr.
Il faut avancer, et après on réfléchit.